Et quand les néonicotinoïdes entrent dans une ruche, Axel, les abeilles s'endorment à peu près comme ce qu'on entend.
Oui, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on va voir.
C'est notre sujet aujourd'hui, à la une de la science.
Oui, Mathieu, on sait que les colonies de bourdons et d'abeilles exposées à cet insecticide voient leur population décliner depuis un moment, mais sans vraiment pouvoir l'expliquer. Et pour la première fois, une équipe américaine s'est intéressée aux effets de ces néonicotinoïdes à l'intérieur des ruches. Et ils sont nombreux: dérégulation de la température à l'intérieur, mortalité des larves et désorganisation sociale. On en discute avec vous, Aurore Avargues-Weber. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue pour le CNRS au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à Toulouse. Alors, l'étude a été publiée vendredi dans le journal Science. J'ai été étonné de découvrir que ces effets dans la ruche n'aient pas été observés plus tôt, compte tenu que le débat sur les néonicotinoïdes n'est vraiment pas récent. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous ?
Alors, c'est vrai que la première chose qui a été étudiée, c'est vraiment le rôle sur les butineuses, puisque ce sont elles, finalement, qui sont en contact direct avec les néonicotinoïdes en ayant récolté le nectar et le pollen des fleurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a des effets tout à fait faciles à retrouver, puisqu'on voit que les abeilles se perdent, notamment. Donc ça, c'est vrai que pour l'apiculteur, il est facile de voir le nombre de butineuses qui ne revient pas à la ruche. Donc c'était des choses qui avaient été étudiées. C'est vrai que dans la ruche, c'est tout simplement plus compliqué, puisque lorsqu'on parle d'une ruche d'abeilles, il y a des dizaines de milliers d'individus à l'intérieur de la ruche, dans le noir. Il est très compliqué de suivre un individu donné et donc de pouvoir bien voir ce qui se passe. Et là, c'est vrai que ces chercheurs ont une très bonne technique. Déjà, ils ont travaillé sur le bourdon, qui ont des colonies beaucoup plus petites. Donc là, il y avait entre 50 et 100 individus maximum au sein du nid. Et ensuite, ils ont un système de suivi par une caméra et puis des petites tags sur le dos de chaque individu, ce qui fait qu'ils ont pu vraiment suivre les déplacements, l'activité, les échanges entre les différents bourdons au sein de la ruche et d'avoir du coup quelque chose de vraiment précis qui a permis de mettre en évidence cet effet.
Donc il existe aussi des ruches de bourdons, ce qu'on peut apprendre aussi grâce à vous aujourd'hui.
Oui, voilà, on appelle plutôt vrai que des colonies, que la ruche, bon, classiquement, c'est vraiment ce que l'on fabrique, que l'homme fabrique, mais oui, effectivement.
Alors, vous qui travaillez tous les jours avec des ruches d'abeilles, quels sont les effets qui vous ont le plus étonné quand vous avez lu ces résultats?
Ce qui est vraiment flagrant, c'est le manque de soins aux jeunes, qui me semble un impact le plus grand possible, puisque c'est donc bourdons qui ont mangé ce pesticide, ont une activité moindre, mais surtout ils restent en périphérie, ils rentrent moins en contact avec les autres bourdons, et ils ne rentrent donc pas en contact avec le couvain, qui normalement doit être soigné en permanence. Il est léché, il est nourri, il est retourné, etc. Et donc, elles procurent moins de soins aux jeunes. En plus, ils ont du mal à maintenir la température idéale pour le couvain. Et donc, ça induit une mortalité importante des larves, qui du coup, bien sûr, à moyen terme, a un impact très important pour la colonie.
Alors, vous l'avez dit, les butineuses se perdent. Là, on voit que la colonie est un petit peu désorganisée. Comment, d'un point de vue physiologique, on peut expliquer ces effets comportementaux quand on a butiné des néonicotinoïdes, alors ?
Alors, il faut revenir à ce que c'est qu'un néonicotinoïde. En fait, voilà, c'est une molécule qui agit sur les récepteurs nicotiniques, pardon. Et ces récepteurs, en fait, sont présents dans les neurones du cerveau et agissent pour permettre la communication grâce à l'acétylcholine, qui est donc un neurotransmetteur très courant que l'on a nous aussi et qu'ont tous les animaux. Donc, en fait, ces molécules ont été fabriqués pour pouvoir en fait bloquer le fonctionnement du cerveau des animaux qui se nourrissaient des plantes. Donc bien sûr, il agit sur le fonctionnement du cerveau de façon générale, et là à faible dose, car les abeilles sont soumises à une faible dose, elles n'entraînent pas une mortalité, le cerveau ne se bloque pas totalement. Par contre, ça entraîne des difficultés de fonctionnement des communications entre neurones, ce qui est donc un impact très large.
Donc en fait, c'est leur intelligence sociale, leur intelligence qui est touchée, on peut le dire comme ça?
Exactement, donc c'est vrai que ça on le voit de façon très flagrante par d'autres études, que ces abeilles n'arrivent plus à apprendre. Or l'abeille a énormément besoin d'apprendre, à la fois pour se repérer dans son environnement, c'est pour ça qu'elles se perdent, parce qu'elles n'arrivent plus à apprendre, à reconnaître leur chemin, les indices de leur environnement, et elles apprennent aussi les caractéristiques des fleurs. Et là aussi, on a vu qu'elles pouvaient du mal à reconnaître une odeur, une couleur, etc. Et donc elles ont du mal à butiner de façon efficace, à aller retrouver les fleurs qui donnent le plus de nourriture. Donc ça joue sur l'apprentissage, ça joue sur leur activité, puisque la acétylcholine joue dans les réponses motrices, c'est ce qui permet d'activer les muscles. Donc le fait que ça ne marche plus très bien, c'est pour ça qu'on voit dans cette étude qu'elles ont du mal à se déplacer. Et voilà, ça joue certainement aussi sur d'autres processus qui expliquent qu'elles s'occupent moins, voilà, en l'occurrence des jeunes, de la thermorégulation ici, oui.
Pour le dire, on pourrait presque dire qu'elles sont un peu shootées. D'ailleurs, en août, une étude est sortie qui montre qu'elles deviennent presque addictes à ces produits. Je voulais vous proposer de la commenter aussi parce que ça avait fait pas mal de bruit. Est-ce qu'on peut relier les deux très rapidement pour terminer?
Oui, donc dans cette étude, ils montrent en fait qu'avec le temps, les bourdons préfèrent aller manger un nectar qui a des néonicotinoïdes dedans. Pardon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà trouvé avec de la nicotine ou avec de la caféine. Voilà, tout simplement pour dire que les insectes, comme nous, ils sont sensibles aux mêmes psychotropes, tout simplement parce que le cerveau fonctionne de façon très similaire.
Mmh. Et c'est pas toujours une bonne nouvelle, en l'occurrence.
Non.
Merci Aurore Avargas-Weber pour votre éclairage toujours passionnant au sujet de ces insectes qui nous intéressent au plus haut point. Merci beaucoup à vous. Publication donc dans Science la semaine dernière. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une découverte animalière faite en Égypte pour la première fois. Des momies de scarabées ont été découvertes, en plus de celles de chats et de serpents, dans la nécropole de Saqqara. Dans ces 7 tombes, dont les plus vieilles ont 6000 ans, les archéologues ont trouvé entre autres 2 grands scarabées momifiés emballés dans du lin, ainsi qu'un coffret rempli de plus petits scarabées et décoré de 3 coléoptères peints en noir. De nombreux chats momifiés et des statuettes en l'honneur de la déesse chat Bastet ont également été identifiés. La Gironde installe une piste cyclable photoluminescente. C'est une première en France. La ville de Pessac, dans la périphérie de Bordeaux, a inauguré donc hier un marquage lumineux auto-rechargeant. Le jour, la peinture routière capte l'énergie lumineuse du soleil et rémet de la lumière de couleur verte la nuit. Aux Pays-Bas, des tests infructueux avaient déjà été menés pour ce type de marquage. Mais cette fois, le fabricant français promet une peinture bien plus résistante. Et puis pour terminer, la génétique des truffes en plein boom. Une équipe internationale de recherche coordonnée par l'INRA publie et décrypte aujourd'hui le génome de plusieurs truffes. Ce champignon au goût inimitable, truffe blanche, truffe de Bourgogne ou encore truffe du désert. Le but de ce projet qui a duré 10 ans est de mieux comprendre la symbiose qu'opère le champignon avec son arbre, mais aussi de percer les mystères de son goût très difficile à synthétiser.